Merci Corinne. Alors on pourrait relever plein de choses, hein. Je ne vais pas m'amuser à ça. Il y a peut-être deux idées que moi je pointerai très rapidement. Le mot d'injustice qui est revenu dans plusieurs de vos interventions. Au fond, ce qui me questionne, c'est l'humiliation qui va tellement loin que finalement il y a des injustices que peut-être on est amené à accepter ou à accepter mieux parce que le registre de l'humiliation est un registre saturé et on est volontiers dans la saturation dans notre société. Les réactions sont extrêmes en face de choses extrêmes, mais du coup ça met dans le gris beaucoup de choses qui sont inacceptables. Et puis par rapport à l'injustice, toujours ce que disait Antoine Durleman, ces injustices que la société fait passer pour des fatalités, mais qui ne le sont pas, qui ne doivent pas l'être. Et c'est l'action menée par des organismes comme le CASP et d'autres, c'est l'action qui concrètement montre qu'on peut sortir de cette fatalité, donc qui ouvre une espérance. Mais je trouve que voilà, ces injustices qu'on fait passer pour des fatalités aujourd'hui, on en imagine, on en voit pas mal, et c'est quelque chose d'extrêmement pervers et d'extrêmement insidieux. Et puis, j'aime beaucoup dans les exemples que vous avez donnés, Corinne, l'idée du cri de protestation et des itinéraires qui libèrent. Et donc, la question de la protestation dans la durée, ça me semble important quand on parle d'accueil de migrants. Il y a le moment de l'accueil, il y a l'émotion, il y a ce traitement humain qu'on peut essayer de mettre en avant. Et puis, après, une fois que ces migrants ils sont là, la vie continue avec eux. C'est toute une vie, c'est des itinéraires qui ont un passé, mais qui auront un avenir aussi qu'on ne connaît pas encore. Et donc, la protestation, là, elle est une sorte d'accompagnement, j'imagine, dans leur devenir. C'est, on fait communauté, effectivement, comme vous le disiez. Je m'arrête tout de suite en fait parce que on avait promis de faire réagir Laurent Schlumberger, Corinne Lanoir et Antoine Durleman les uns aux autres. Voilà, commence celui qui veut.
J'ai retenu, j'ai été frappé notamment par deux idées, deux éléments de réflexion qu'on retrouvait dans ce qu'a dit Antoine et dans ce qu'a dit Corinne. D'une certaine manière, un peu dans ce que j'ai dit aussi, mais je me concentre sur ce qu'ils ont dit l'un et l'autre. Deux choses qui paraissent au fond assez banales, mais qui ne vont plus de soi du tout. L'idée d'abord que la protestation, j'emploie un mot qui a peut-être été employé, je ne sais plus, la protestation c'est quelque chose qui se vit dans l'interstitiel. Ça se faufile. Corinne disait presque en terminant, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les cartes en main pour agir. Il y a une action qui peut et qui doit s'engager, sans qu'on ait forcément, et c'est là où ça s'oppose assez frontalement à toute une série politique et à un air du temps, sans qu'on ait forcément un beau programme avec des objectifs, des moyens, des étapes, des bilans, etc. L'interstitiel, c'est quelque chose de tout à fait essentiel et qui devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile parce que le monde associatif recule. Associatif au sens propre du terme. De plus en plus, des organismes qui s'appellent des associations deviennent en fait des organismes collectifs qui sont rémunérés pour ce qu'ils font, qui doivent agir sur la commande d'un autre, et non pas qui sont le groupe relié, la mise en commun d'idées et de volonté et de force pour essayer d'inventer quelque chose. Il y a de moins en moins de subventions, même si le mot existe toujours autant, mais il y a de plus en plus de rémunérations, de programmes établis par d'autres et qui sont assurés par des acteurs juridiquement associatifs. L'association, le petit groupe, la chose qui ne se voit pas beaucoup, ça agit dans l'interstice entre des programmes qui doivent faire leur travail, qui avancent et qui sont en général des machineries assez lourdes, et puis le grand néant, l'oubli, et ça essaye de frayer un chemin là, et il me semble qu'il y a là, dans l'action interstitielle, un chemin de protestation concret, réel, où on découvre en effet l'espérance. La deuxième chose que je souligne, que je relève, qui m'a frappé dans ce qui a été dit par Antoine et Corinne, c'est que, là aussi contrairement à l'ère du temps, on ne choisit pas avec qui on fait société. C'est comme ça. C'est donné. On n'est pas, on ne peut pas être dans la discrimination au sens mathématique du terme, dire discriminer au sens faire des tris. On ne peut pas être dans le choix. Toi, je veux bien que tu fasses société avec moi, mais toi, je veux pas te voir, je veux plus te voir. Et nous sommes constamment dans des logiques partout où il faut se justifier d'être là, où il faut répondre à des critères, où il faut savoir si on a la possibilité de bénéficier d'eux ou d'être acteur d'eux, au lieu de partir d'une donnée commune qui est « nous sommes là ». Voilà. Dans cette pièce, nous n'avons pas choisi, à l'intérieur d'un cadre bien sûr, on n'est pas venu là par hasard, mais nous n'avons pas choisi qui serait là, avec qui on serait là, qui serait pas là, c'est quelque chose qui nous est donné et on fait avec. L'idée de « on fait avec », loin d'être quelque chose qui brime et qui écrase, est, je trouve, plutôt la source d'une formidable envie d'agir, de bouger et d'avancer. On fait avec, avec ceux qui sont là, avec celles qui seront là, avec ceux qui nous sont donnés. Hein. Et c'est dans la mesure où on fait avec ceux qui nous sont donnés et qu'on ne les choisit pas, que du coup, on peut se mettre en route et on peut avancer. Et là aussi, il y a, me semble-t-il, très concrètement, une source de protestation contre des logiques d'injustice, de discrimination et de choix, de sélection entre les humains.
Moi, je me retrouve complètement dans la question que pose Laurent, qui est celle de l'interstitiel. Et au fond, je dirais d'une autre manière, c'est-à-dire le fait que la protestation, c'est nécessairement accepter de se mettre en risque. Pas simplement par la parole, on est dans une société démocratique, la parole est libre, mais protester par l'action, c'est accepter d'être de guingois, de se mettre en risque, de lancer un projet, très souvent dans notre cas, sans financement ou avec des financements totalement partiels, j'allais dire eux-mêmes interstitiels. Et au fond, la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que le taylorisme et le fordisme qui étaient évoqués tout à l'heure, c'est quelque chose qui a contaminé complètement le champ social. La lourdeur des dispositifs, leur caractère prescriptif, leur caractère normatif, ont pour conséquence que ce qui était dans l'accompagnement, d'abord une question de personne à personne, j'allais dire d'une main et d'une autre main qui se rejoignent, qui était au fond, comment dirais-je, un travail d'artisan, un travail chaque fois particulier, chaque fois une réinvention de quelque chose de spécifique. Ben, ce travail d'artisan, c'est devenu un travail d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la complexité d'une machinerie, appliquer un mode d'emploi, des procédures, et derrière, rendre compte de la manière dont on a accompli ou dont on n'a pas accompli cette fonction qui vous a été confiée. Et il y a là un danger évidemment extrêmement fort, parce que le danger, c'est celui de s'absorber dans la perfection technique du service qu'on rend selon des normes qui ont été édictées ailleurs, et de ne pas être au cœur de cette protestation par l'action qui invite à reconnaître dans chaque personne d'abord sa singularité, et de partir de sa singularité à lui dans l'aide, l'action, l'accompagnement qu'on peut lui apporter. Je pense que c'est un danger absolument mortel, évidemment pour tout le champ associatif, s'il se réduit simplement à répondre à des logiques de projets qui sont faits ailleurs. Et donc la capacité à inventer est quelque chose d'essentiel, difficile. Au CASP, nous avons lancé des actions que nous supportons grâce à l'aide de nos donateurs et qui sont depuis des années de guingois, qu'il s'agisse d'accueillir des personnes sans domicile qui sortent d'hôpital et qui ont besoin de convalescence. Il n'existe rien. Les durées de séjour dans les hôpitaux sont de plus en plus courtes. Qu'il s'agit aussi de l'action que nous avons engagée avec en particulier des médecins de l'assistance publique pour accueillir des jeunes femmes sortant des maternités parisiennes. Là aussi, la durée moyenne de séjour maintenant, c'est 2 jours et demi, 3, exceptionnellement 3 jours et demi. Et ensuite, ces jeunes femmes repartaient à la rue avec leurs enfants. Donc nous avons construit un dispositif spécifique, mais toujours, j'allais dire, bricolé. Mais tant que nous aurons cette capacité à assumer ce bricolage, alors nous aurons cette capacité à protester.
Corinne ? Oui, enfin, disons que juste pour réagir à ça, moi, effectivement, je crois beaucoup au bricolage. Et que si on n'arrive plus à bricoler, là, on est mort, quoi. Et je crois que ce que Laurent disait sur aussi Jésus qui traverse les situations d'humiliation, c'est une autre forme de bricolage. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, arrêtons de vouloir être des professionnels.
S'impose à moi, c'est un tout petit exemple qui montre combien la protestation peut être un moteur dans des choses infimes. J'étais voir il y a deux jours le film Hippocrate, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous l'ont vu, c'est un film remarquable que je vous recommande. Il y a une scène où, mine de rien, il y a une protestation extraordinaire qui se passe. Il y a une vieille dame qui est dans un lit, on lui a réparé le fémur alors qu'elle a un cancer généralisé, enfin la logique hospitalière et elle marche à fond la caisse pour faire tourner ses budgets, etc. Et il s'agit, alors qu'elle va très bientôt mourir et qu'elle veut qu'on la laisse tranquille, il s'agit pour l'hôpital qu'elle aille mieux pour qu'on puisse l'envoyer dans un établissement de suite pour libérer un lit qui sera mieux utilisé par quelqu'un d'autre. Et la chef de clinique, malgré elle, elle est dans cette logique et donc contre la volonté de la dame et contre la volonté de l'interne, elle a imposé qu'on la nourrisse par une sonde, qu'on lui fasse tout un tas de traitements qui n'ont ni queue ni tête, mais parce qu'il faut libérer le lit. Et elle ne veut pas le savoir. Cette dame souffre, on le voit, elle ne veut pas le savoir. Et l'interne, qui est contre ce choix, est à côté du lit de la vieille dame. Il est désespéré, il est en colère, et il arrive à obtenir que la chef de clinique quitte son bureau, entre dans la pièce, voit la vieille dame, et dise « D'accord, on arrête. » Parce qu'elle a vu la dame. Et au fond, la protestation de cet interne contre une logique démente qui broyait quelqu'un, ça a été simplement d'obtenir qu'il y ait un contact humain. Je fais écho à ce que disait notamment Antoine tout à l'heure. C'est une magnifique scène de résistance qui n'emporte pas le nom, de protestation qui n'emporte pas le nom, mais qui le vit très concrètement.
J'avais envie de poser une question à nos intervenants, une grosse question.
Tellement grosse que...
Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a des outils pour évaluer la protestation en acte ou en parole des protestants? Alors faut-il dire luthéro-réformé pour faire plus simple, parce que le monde protestant aujourd'hui est tellement divers que c'est peut-être très compliqué de répondre à cette question, mais déjà dans cet univers luthéro-réformé, c'est peut-être pas si simple. Est-ce qu'on a des évolutions, des tendances sur... l'implication des protestants dans les associations, leur capacité à donner, leur capacité à répondre, à réagir, même par écrit, etc.
C'est évidemment une question tout à fait essentielle, mais en réalité, je crois que... tout dépend des églises. C'est-à-dire que, au fond, notre engagement associatif, nos œuvres, elles sont évidemment liées à des initiatives qui ont été souvent des initiatives d'églises qui continuent à être portées. Et au fond, la question essentielle, c'est de savoir comment ces œuvres continuent à s'ancrer précisément dans nos églises. Et derrière, avec un sujet qui est évidemment considérable, qui est celui du renouvellement des générations. On est dans un monde qui, tel qu'il est, fait que la misère, l'injustice, les difficultés sociales, elles se renouvellent en permanence, elles prennent des formes différentes. Il ne faut pas penser que cette action de transformation par l'action que l'on porte, elle va avoir à s'arrêter. Si on veut qu'elle se poursuive, ça veut dire qu'il faut que d'autres générations viennent à leur tour prendre leurs responsabilités agir finalement dans ce sens-là. Là, le rôle des églises est tout à fait essentiel. C'est dans ce terreau-là que tout se joue aujourd'hui, évidemment, mais plus encore demain. Je pense qu'il y a une responsabilité historique des églises aujourd'hui à faire en sorte que précisément la protestation, ça ne soit pas simplement la parole, mais que ça soit aussi l'action concrète.
Quatre éléments de réflexion par rapport à ta question. D'abord, j'en sais rien, je ne peux pas répondre à ta question. Quand même. Non, mais peut-être qu'un sociologue pourrait avoir une batterie d'indicateurs sur, je crois, le nombre de protestants. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un protestant ? Fin de parenthèse. Le nombre de protestants qui sont syndiqués, membres d'associations, qui font des dons, etc. Donc, c'est peut-être un sociologue qui pourrait donner quelques éléments de réponse objective. Deuxièmement, je ne veux pas le savoir. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il s'agirait d'évaluer ? La qualité sociale des protestants magnifique. Le risque à essayer pour soi ou pour sa communauté ou son église de répondre, c'est le risque, j'ai employé un mot un peu violent, c'est le risque du pharisaïsme. Et il faut s'en garder comme de la peste puisque ça nous guette à chaque tournant. Troisièmement, nous sommes très désavantagés dans notre pays à cause de la schizophrénie juridique qui nous est imposée. C'est-à-dire d'un côté le cultuel et de l'autre côté le reste, l'action culturelle, sociale, éducative, etc., puisque les associations culturelles n'ont pas le droit de faire ça. Et par un effet de cette schizophrénie juridique, nous, par paresse, nous laissons souvent aller en considérant petit à petit volontiers que l'Église c'est le cultuel. Je ne sais pas par quelle aberration on glisse toujours de ce côté-là, peut-être à cause de structures très profondes et très anciennes qui ont quelque chose à voir avec le sacré, mais si je lis les Écritures et le Nouveau Testament en particulier, le cultuel n'est pas plus évangélique que la vie commune, pour employer un anachronisme, que la vie laïque, que l'action sociale, que l'éducation, pas plus. Dans les paraboles de Jésus, il y a un arrière-plan social permanent et un arrière-plan cultuel très rare. Mais nous sommes dans un cadre juridique qui nous contraint sans arrêt à séparer les choses, alors qu'au contraire, il faut toujours les retisser. Les retisser, c'est par exemple veiller à ce que les églises soient attentives et impliquées dans l'éducation populaire, qui est un lieu majeur pour tisser cette confiance dont Antoine parlait. Et à l'inverse, quand dans une communauté chrétienne, le dimanche matin, on fait place à quelqu'un qui se sent accueilli, reçu avec ses blessures, ses humiliations, ses silences, ses paroles, ses cris quelquefois, est-ce que ça vaut pas mieux que 100 programmes sociaux ? Donc, il faut toujours, me semble-t-il, renoncer ou dépasser ces séparations qui nous sont imposées par nos psychologies, notre culture, notre histoire et le droit, pour toujours essayer au contraire de retisser les choses. Et c'est peut-être en retissant et en refusant de séparer qu'on fait un petit pas un peu dans le sens d'une protestation féconde.
Alors, c'est le moment des questions des personnes qui sont ici, qui sont venues écouter ces trois interventions. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions ? Est-ce qu'il faut faire passer le micro ?
Vous me parlez fort. J'ai l'impression que...
Non, parce qu'il est coincé là-dedans.
Il est entré là.
Ça n'ira pas plus loin.
Ça m'évoque au mois de juin. Esther Duflo était venue faire une conférence et que cette conférence était sujet, c'était que pour avoir envie d'en sortir de la pauvreté, etc., il fallait que sentir que sa dignité était respectée. Avoir de... être...
considéré
oui, comme humain, mais un humain tout à fait respectable et participant à l'ensemble de l'humanité. Et là, je suis en train de finir le livre qu'elle a fait paraître avec son groupe, ce qui s'appelle « Repenser la pauvreté », où il y a toute une partie qui montre à quel point tout un tas de politiques qui ont l'air extrêmement bien faites, etc., quand on les confond à ce qui se passe sur le terrain, heureusement, ils ont toute une collection, subventionner toute une collection d'équipes de terrain qui vont poser des questions précises, voir un peu comment ça se passe, et bien souvent, il y a une méconnaissance, une incompréhension de ce que, de la façon dont, dont réfléchissent justement ces pauvres-là qui ont de tous les continents. On s'adresse et que en posant des questions de façon un peu différente ou en mettant des protocoles un peu différents, il arrive qu'on puisse faire des largement. Aller vers le but qui était prévu au départ et de façon qui n'est pas du tout spectaculaire.
J'ai le droit de poser une question ? J'aimerais poursuivre une des questions que Séverine posait. Qu'est-ce qui fait sortir les protestants dans la rue aujourd'hui ? Il y a d'autres communautés religieuses qui font sortir des gens dans la rue sur tel et tel sujet. Et ça a évoqué pour moi une question que posait Michel Rocard à cette table même il y a un an, je crois que c'était lors d'une journée du forum de Regard protestant, et il disait, ce qui m'a toujours étonné, c'est à quel point les églises ou les religions en général sont prêtes à, y compris aller dans la rue ou monter au créneau sur des questions d'éthique sociale, d'éthique médicale, d'éthique conjugale, de mœurs, mais à quel point elles étaient silencieuses en termes d'éthique économique. Et ils donnaient quasiment comme programme, donc je vous en prie, dites quelque chose. Soyez pour, soyez contre, mais dites quelque chose. Et du coup, ça fait résonner en moi le fait que dans les différentes interventions, et je crois que c'est tout à fait légitime puisqu'il s'agit de protester pour l'homme et on est au plus près de l'homme quand on agit avec, mais je dirais le cadre économique a été assez peu présent et évoqué, et je me demandais protester pour Dieu par exemple, si je regarde dans l'histoire du XXe siècle, quand est-ce que des gens ont affirmé protester pour Dieu ? Je pense à Barman, par exemple. Voilà. Il y a un moment, il y a une protestation pour Dieu qui vient de la part des églises contre les seigneuries qui dominent sur le monde. Voilà, je voulais savoir comment vous réagissiez à cette interpellation que je voudrais faire entendre autour de la protestation par rapport au cadre.
Je commence. Précisément, Barman, c'est intéressant parce que la déclaration de Barman, c'est une déclaration qui a soigneusement évité de parler de certaines questions qui fâchaient à l'époque, notamment le statut des Juifs. Elle n'en dit pas un mot. Alors évidemment, 80 ans après, nous embaumons Barman, et d'ailleurs on a bien raison, mais il ne faut pas l'idéaliser non plus. C'est une... j'allais dire, c'est une protestation puissante dans ses effets, pas dans sa voix à l'époque, puissante dans ses effets ultérieurs, strictement cantonnée au domaine théologique et qui a rejailli bien au-delà. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'au fond, c'est en faisant son métier au sens étroit du terme que cette Église a pu féconder toute une série d'engagements politiques ultérieurement et au prix d'un évitement de certaines questions qui fâchaient à l'époque. Alors moi, je dirais aujourd'hui trois choses par rapport à ta question. D'abord, je crois qu'un des éléments qui pousse à moins prendre la parole aujourd'hui qu'il y a 30 ans sur les questions économiques dans les églises, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure à propos de la complexité. C'est-à-dire que dans les églises comme ailleurs, d'ailleurs, pas que dans les églises comme ailleurs, avoir une vision à peu près, une compréhension à peu près cohérente et qui incite à l'action, c'est extrêmement difficile. Il n'y a qu'à voir, à contrario, comment des livres comme ceux d'Esther Duflo, dont on vient de parler, ou de Thomas Piketty dans le domaine économique, c'est-à-dire de gens qui s'osent à une théorie globale, sont reçus avec une espèce de jubilation, parce qu'enfin quelqu'un a osé avoir un peu une compréhension globale. Mais au fond, toi, moi, nous, qui sommes-nous pour nous avancer sur ce terrain-là? Alors, c'est vrai à certains égards, c'est une très mauvaise excuse à d'autres égards. Deuxième élément de réflexion, qu'est-ce qui fait sortir les protestants dans la rue, descendre dans la rue? Ben souvent, les protestants, quand ils descendent de la rue, ils le font de manière laïque, et pas avec une banderole d'église. Donc, ils sortent individuellement ou dans d'autres cadres, et là aussi, c'est très ambivalent. C'est très ambivalent parce que c'est respectueux du cadre laïque et ça nous va bien, et en même temps, ça nous pousse à faire ce lien, y compris dans nos propres têtes, entre l'Évangile et une lecture sociale ou économique, et à féconder l'un avec l'autre. Et donc, troisièmement, je trouve que nos églises, en ce moment, se saisissent beaucoup trop mal de ces questions-là. Beaucoup trop mal. C'est-à-dire que nous avons de la peine à constituer des équipes de réflexion, imaginer une manière de saisir des questions sociales ou économiques, à nous atteler à ces questions-là. Peut-être que du coup, c'est une des choses qui fait que, je crois, aujourd'hui, plus de membres de nos églises qu'il y a 20 ans rejoignent, comme disait Antoine tout à l'heure, des œuvres sociales, parce qu'ils perçoivent que c'est peut-être là que ça a le plus de sens. Mais du coup, ça a pour effet d'assécher le débat ou la réflexion sur ces questions-là à l'intérieur de nos églises. J'aimerais bien qu'il en aille autrement, mais on ne sait pas bien comment faire.
Je vais parler fort. Peut-être au risque de la provocation, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la réflexion, parce que, en vous écoutant, on a le sentiment que protester, c'est finalement agir. Et on risque de devenir, comme je crois Antoine Durman l'a dit, des ingénieurs du social. Parce que finalement, quand on est dans l'action, on a la tentation légitime d'avoir l'efficacité, donc d'avoir le résultat. Et finalement, est-ce que, mais vous avez évoqué ça, est-ce qu'on n'est pas, finalement la protestation, ça ne doit pas être au-delà de ça, quelque chose qui va dire, comme dans le film, comme c'est un terme, quelque chose de différent, de décalé. Et c'est peut-être aujourd'hui le problème des protestants, c'est d'être justement dans le laïc, dans la protestation, comme les autres. Alors que nous devrions peut-être avoir une parole qui dise autre chose dans cette situation du social, comme cet exemple à Lampedusa que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être cette petite chose, qui n'est certes peut-être pas très efficace, mais qui dit quelque chose, qui proteste au nom de l'humain, au nom de Dieu aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de... Justement, on a beaucoup parlé de l'agir, de l'amélioration de l'humain, mais on n'a pas beaucoup entendu Dieu. Alors, je ne sais pas, je vous donne un peu ma façon de réagir, et me demande s'il n'y a pas quelque chose à chercher, justement, pour que nous soyons capables de dire des choses qui interpellent nos contemporains, au-delà simplement de l'efficacité de l'action sociale.
Il me semble que la question posée est évidemment totalement essentielle. Et en réalité, je crois qu'elle renvoie bien au fond à cette tension entre une parole qui s'est exprimée à travers les évangiles, des faits d'aujourd'hui. Et là, notre capacité à partir des faits d'aujourd'hui, de la manière dont nous les ressentons, dont nous les vivons, dont éventuellement nous les combattons, revenir à cette parole première dans le langage d'aujourd'hui. Et au fond, la question de l'interpellation, elle est, me semble-t-il, essentielle. Dans un monde dans lequel les interpellations sont multiples, et la question de notre action particulière, de notre interpellation particulière, c'est vrai qu'il me semble qu'elle est... c'est une question qui se pose. Elle n'est pas toujours inaudible. Je pense en particulier la parole des églises sur l'accueil de l'étranger. Voilà une parole qui me semble à la fois articulée, nourrie, irriguée et fortement portée. Mais si cet exemple-là est un exemple qui me paraît vraiment avoir projeté à la face de l'opinion un accent différent, une revendication particulière, c'est vrai que dans d'autres domaines, elle reste encore à s'élaborer, en tout cas à se porter, oui.
Votre remarque me poser deux questions. L'efficacité est-elle une valeur évangélique? Il y a des protestants qui disent oui. Hein. Moi, personnellement, je dirais plutôt non. Même carrément non. Mais qu'est-ce qu'on cherche, hein, quand on proteste, quand on essaie de construire... essayer de construire un autre monde, etc., est-ce que c'est de l'efficacité? Il y a aussi des gens qui pensent, par exemple, à partir de la théologie de la prospérité, hein, où là, on voit très bien que ceux qui font ce qu'il faut, ils sont riches, bénis et puissants, et puis les autres, c'est parce qu'ils ne savent pas faire, c'est parce qu'ils ne sont pas assez évangéliques, etc., qu'ils sont pauvres. Hein. Protester pour Dieu, quel Dieu ? C'est vrai qu'on est loin d'avoir fait le tour de toutes les questions et de toutes les affaires, mais bon, voilà. Et puis, y a-t-il aussi une manière protestante de faire de la politique? Je ne sais pas. Je pense que savoir pourquoi les protestants sortent, effectivement, ils sortent en général pas comme protestants pour protester, mais... Je ne sais pas si c'est ça le critère. Est-ce que c'est au nom de ça? Moi, je verrais plutôt quand il faut protester pour un certain nombre des situations qu'on a évoquées ou pour d'autres, on proteste parce que c'est légitime de protester. Et après, si on a une lecture biblique, une foi, une référence chrétienne, en ce qui me concerne en tout cas, cette référence-là, elle vient interroger une pratique. Mais la pratique, elle n'est pas protestante. La pratique, elle est politique, elle est sociale, elle est économique. Mais le fait que je lise la Bible vient chaque fois m'interroger sur cette pratique. Et même si j'ai mis en place un certain nombre de choses, ou si je suis contente ou pas contente de ce qui se passe, la lecture des textes va venir réinterroger ça, hein, et relancer quelque chose pour une autre dynamique, pour une continuation, pour un changement, etc.
À propos de suspendre l'action et pour aller prolonger après votre intervention, c'est en effet souvent quand on suspend l'action que s'ouvre plus de place pour la parole. Et c'est quand même ça le vrai combat, la parole, parce que la parole, c'est ce qui humanise. Et je pense à deux petites histoires qui sont des histoires vraies, qui sont comme deux petites paraboles pour moi. Une première, j'aime souvent penser à ce que racontait Karl Barth, on a parlé de barman, Karl Barth qui disait que dans les années 32-33, quand les rues de Berlin vociféraient et étaient prises d'assaut par les chemises brunes, des incendies et la violence, le plus fort signe de protestation qu'il ait entendu, c'était la cloche d'un couvent qui appelait à la prière. Que Barth dise ça, je trouve que ça donne à réfléchir. Et la deuxième petite parabole se passe au foyer de Grenelle, pas très loin d'ici. Tous les ans, depuis les années 30, il y a le soir du 25 décembre un grand souper, comme on dit là-bas, c'est-à-dire des centaines de gens qui vivent à la rue, ou de plus en plus dans des sans être à la rue, dans des conditions très très difficiles. C'est une soirée avec spectacle, dîner, toute la nuit qui se prolonge, et il y a des centaines de personnes donc, qui attendent à la porte que la porte s'ouvre et que les personnes entrent. Et il y a un rite extraordinaire qui a lieu là, entre le trottoir et la grande salle. C'est qu'il y a des cuvettes qui sont installées avec des serviettes et du savon pour qu'on se lave les mains. J'imagine qu'au début, il y avait des options hygiénistes derrière. Quand on garde l'eau dans la cuvette, les options hygiénistes, c'est vraiment pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand la personne vient, s'arrête et se lave les mains et que quelqu'un lui tient une serviette, l'action se suspend et tout à coup, on voit que ça commence à parler. Et que ce geste qui laisse la place à la parole, c'est un sas d'humanisation qui fait que les gens, quelquefois excédés d'avoir attendu et qui arrivent agités, entrent ensuite accueillis dans cette salle. C'est une toute petite chose, mais qui montre comment en effet l'efficacité, quand elle est suspendue et qu'elle laisse place à la parole, peut transformer complètement les choses.
En fait, cette question peut paraître très simple et d'un côté peut-être assez pragmatique, mais avec vous, on a entendu la cause de la femme, de la pauvreté, de l'immigration. C'est assez simple, mais comment ne pas se sentir submergé par tout ce qu'il y a autour de nous? Et est-ce qu'on doit faire un choix dans notre protestation? Agir pour la femme, agir pour l'immigration, alors tout est un peu mêlé parfois, mais peut-être pour les animaux, voilà. Est-ce qu'on doit faire un choix? Et après, pour les étudiants en théologie qui cherchent à être pasteurs plus tard, dans notre église, on ne peut pas agir pour tous. Alors, est-ce qu'on doit mettre une action au-dessus d'une autre? Une question assez simple.
Moi, j'aurais une réponse très pragmatique. Hein. Il n'y a qu'à commencer par un bout. Je veux dire, de toute façon, il y en a bien trop pour ce qu'on peut faire. Il n'y a qu'à prendre ce qui se présente. Hein. Comme on disait tout à l'heure, on est là avec ce qu'on est. Et ben, suivant ce qui se passe là, tout près, avec une occasion, avec quelque chose, ben, commençons par là.
Amen. Et j'ajoute ceci, il y a 5 ans, presque jour pour jour, dans cette salle, il y avait une journée d'études sur la diaconie. Et Corinna Combet avait, à sa manière extraordinaire, livré un élément de réflexion tout à fait fondamental, en revenant à la parabole de Matthieu 25. Vous savez, quand on a nourri, accueilli, vêtu quelqu'un sans le savoir, j'ai dit c'est à moi que vous l'avez fait. Et les gens qui l'ont fait dans la parabole disent mais quand avons-nous vu? C'est-à-dire qu'ils ne le savent pas. Quand on agit, puisque ce soir on parle de protestation, disons pour la protestation, ne cherchons pas à le savoir. C'est quelque chose dans lequel on est pris, comme dit Corinne, dans lequel on entre sans avoir toutes les cartes en main, comme elle le disait tout à l'heure. Mais ne cherchons pas à le savoir. C'est après qu'on reliera, avec la certitude de toute façon que ce n'est pas notre efficacité qui nous justifie, ou notre manque d'efficacité qui nous déjustifie.
Y a-t-il encore des demandes d'intervention, de réaction?
Oui, j'avais juste un peu à la suite de madame une interrogation sur le rôle des protestants en matière de protestation sur les guerres. Alors, je sais bien que c'est un sujet difficile parce qu'on est à la frontière du politique et du social, que la Fédération a fait un appel pour les immigrés de Syrie et d'Irak. Et d'une façon générale, j'ai le sentiment qu'on ne dit pas grand-chose et que les catholiques en font beaucoup plus. Donc pourquoi nous, les protestants, serions-nous plus ouverts? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a qu'un. Nous sommes aujourd'hui, ça me semble de plus en plus important, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, dans un conflit mondial, il ne faut pas l'oublier, et qui, on l'appelle pas Troisième Guerre mondiale, mais je pense que ça mériterait qu'on ait une voix plus forte.
Le président d'église.
Vous avez remarqué comme dans ces cas-là, on a un réflexe vaticanesque. Ce que peuvent faire les protestants, tiens, on va se tourner vers le président de l'église. C'est protestant, ça? Je vous remercie. Donc je vais répondre pour moi. En disant que je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre.
Je mets de côté le fait que les catholiques feraient plus ou moins, puis peut-être d'autres plus et d'autres moins. Et comment dire les choses pour refermer vite cette parenthèse-là, l'action concurrente entre certaines personnalités catholiques cet été à propos de ces questions-là n'était pas du meilleur effet non plus. Je referme la parenthèse. Moi, je ne sais pas. Quand je vois ce qui se passe en ce moment en Irak et en Syrie, je pense à une masse qui tomberait dans un endroit infesté et qui, parce qu'elle tombe, pour écraser ce qui infeste, en met partout et éparpille. Et donc va démultiplier la violence. Au fond, c'est ce qu'on voit se produire de loin en loin depuis 1979, depuis l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, où les États-Unis ont armé les talibans, qui se sont retournés. Et de proche en proche, comme ça, on voit que cette violence ponctuelle, qu'on pouvait peut-être penser légitime, j'en sais rien, par ses effets successifs, éparpille et démultiplie la violence. Et je pense dans ces cas-là, à ce conseil de je ne sais plus qui, certainement un grand sage, certainement hindou, dans ces cas-là c'est toujours un grand sage hindou, qui dit quand tu vois deux hommes se battre, ne va pas t'y mettre, ça en ferait un troisième. Et puis à l'inverse, même si ça n'a pas grand-chose à voir, je me rappelle combien le siècle passé a été à feu et à sang pendant 60 ans, 50 ans, parce qu'en 38, on a préféré ne pas bouger. Et je ne sais pas quoi faire, ou quoi penser, parce que faire, je ne sais pas si je peux faire grand-chose. Et je pense, dans ces cas-là, à quelqu'un comme Bonnefer, déchiré entre ses convictions pacifiques et son engagement violent. Et je reste avec ça en tête.
Oui, je voulais prendre la parole. On n'a pas encore parlé beaucoup. Pour le moment, un phénomène très fort aujourd'hui et qui est peut-être sans précédent. Je pense à la désillusion qui mène à l'indifférence. Et donc à la fin de la protestation et a fortiori de l'action. Et j'ai l'impression qu'on est dans une période où cette indifférence induite est plus forte que jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'indifférence, voilà l'ennemi. Non ?
À coup sûr, oui. À coup sûr, oui. L'indifférence, c'est l'ennemi. Dire que l'indifférence est aujourd'hui plus forte, je n'en suis pas, pour ma part, totalement certain. Il me semble que il y a chez beaucoup de nos concitoyens que même le sentiment que il y a quelque chose qui devrait être fait et souvent plus à titre individuel qu'à titre collectif. Je pense qu'il y a le sentiment d'une impuissance du politique, d'une impuissance souvent du collectif, mais je pense que à titre individuel, beaucoup de gens qui cherchent comment agir sans nécessairement le trouver. Moi, je ne désespère pas du tout de nos concitoyens. Je ne désespère pas du tout de notre société. Je pense qu'elle a des ressorts, très profonds. Que dans ce monde troublé dans lequel nous sommes, la question c'est de savoir comment précisément ces ressorts peuvent faire en sorte qu'il y ait une forme d'engagement. Mais je ne désespère pas. J'ai été très frappé. Nous étions présents à Protestants en fait, place du Palais Royal, il y a juste un peu plus d'un an. J'ai été très frappé de voir, nous avions affiché sur les murs de notre stand à la fois la cartographie de nos implantations et nous avions affiché de véritables appel à bénévolat des fiches de poste. Et j'étais frappé de voir le nombre de personnes qui se sont approchées de nous, qui ne venaient pas, de Bercy, qui n'était pas dans une espèce de transhumance d'endroit à endroit repéré. Non, c'était des gens qui traversaient, qui étaient là dans le premier arrondissement et qui nous ont dit « je prends l'affiche aujourd'hui ». Ça ne m'est pas possible parce que vous exigez une forme d'engagement dans la durée. J'ai des contraintes, mais je garde votre fiche parce que le moment venu, je reviendrai vers vous et vous me rendez possible finalement à travers le caractère concret de l'appel d'y répondre un jour. Je trouve que ça a beaucoup de sens et que ça témoigne de quelque chose quand même qui est assez profond dans notre société.
On dit que c'est le dernier.
L'humiliation, harcèlement des violences, comme disait Laurent Chabouillet tout à l'heure, entraîne la révolte, la résignation. Beaucoup de révolte et beaucoup de résignation. J'entends que on est beaucoup rentré aussi dans l'émotionnel ce soir avec les histoires d'Ambulosa, de Rwanda et tout ceci. Et d'abord, je veux dire que l'Église catholique, peut-être en 39, peut-être en 94 aussi au Rwanda, quand on dit il y avait un million de morts en 3 mois, ça veut dire que plus que le rythme d'élimination des Juifs et des autres pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Une phrase d'un journaliste un peu lapidaire vis-à-vis du voyage de Jean-Paul II en Amérique latine il y a quelques années, et c'est le grand effet que madame avant tout à l'heure sur le nombre, où on avait dit le pape Jean-Paul II a voyagé en Amérique latine pour rechercher des parts de marché. Des parts de marché. Et je pense que nous, non pas pour rechercher des parts de marché, mais nous devions, avec l'action sociale surtout, avec M. Germain, auquel je suis très proche, parce que je suis en contact avec ces misères au quotidien, de façon la plus brutale possible. Est-ce qu'on ne peut pas, comme on fait dans les prisons, comme les musulmans le font dans les prisons, comme on le fait ceci, cela, comme il y a une prêtre à Saint-Étienne qui a recueilli des gens qui viennent de gagner un procès, dire à ceux que nous recueillons dans les centres d'action sociaux, il y a aussi la voie de l'évangile. Il y a aussi la voie du Christ, il y a aussi le protestantisme, une petite Bible, un petit enseignement. Est-ce que cela ne serait pas possible dans nos actions sociales?
Vous ouvrez une grande question en fin de soirée.
C'est une question profonde. Elle se relie à ce que disait. Pardon. Au fond, quel est dans nos centres sociaux, dans nos centres d'action sociale, la manière dont nous pouvons imaginer de mettre à disposition de ceux qui le souhaitent précisément l'Évangile d'une manière ou d'une autre. C'est une question qui est tout à fait essentielle, pas simple au regard de ce que nous rappelait Laurent Schlumberger tout à l'heure, c'est-à-dire que la séparation en 1905 du culturel et du social, et donc d'une manière générale la laïcité dans notre pays, est quelque chose qui rend les choses compliquées. Bien évidemment, nous sommes une association qui est protestante. Notre intervention est laïque. Et notre intervention, elle est laïque pas simplement parce que nous avons des financements publics, elle est aussi laïque parce que, j'allais dire, l'Évangile s'adresse à tout homme. Il est lui-même laïque, en réalité. Maintenant, dans le cadre des financements publics que nous recevons, la question de savoir comment nous mettons à disposition, autrement que par précisément le titre même de notre association, précisément cette parole, c'est une question sur laquelle nous nous sommes souvent interrogés et sur laquelle nous n'avons pas totalement débouché. Au fond, la mise en contact la plus efficace et la plus pragmatique, c'est ce qui se passe dans les paroisses protestantes, dans les 23 paroisses protestantes qui, chaque dimanche, à Paris et en région parisienne, accueillent tour à tour les personnes que nous accueillons. C'est ce que nous appelons les tables du CASP. Et donc, les personnes qui sont dans nos foyers sont invitées par les paroisses pour un repas, pour les rencontrer et pour précisément à cette occasion-là, dans les paroisses, avoir un échange, avoir une parole. Liberté pour eux de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Il m'est arrivé, prenant la parole dans une paroisse parisienne, de rencontrer quelqu'un qui m'a dit « Moi, je suis paroissien de cette paroisse et je suis venu au protestantisme par le CASP. » Ça m'est arrivé.
Alors, je me tourne vers Patrice. Est-ce que nous terminons ce moment d'échange?
J'ai l'impression s'il n'y a pas trop de frustration, mais l'échange pourra continuer autour de la collation que nous proposons. On peut remercier grandement Laurent Schulberger, Corinne Lanois, parmi nous, j'espère, pour la collation qui suit. Une petite indication, l'atelier protestant, dont vous entendrez un peu plus parler tout à l'heure par son président, Philippe Buttinger, tout à l'heure, a adopté la politique d'avoir une participation libre aux frais à la plupart de ses activités. C'est le cas de sa première. Donc ceux qui voudraient participer aux frais de cette rencontre peuvent le faire. Il y a un panier qui était là-bas sur une chaise où quelqu'un est assis, donc j'espère qu'il n'est pas assis sur le panier, mais vous le trouverez au bout.
Dans le panier.
Voilà. À titre d'indication, entre 5 et 10 euros, ça couvre nos frais. Ceux qui n'ont rien, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Et je vous invite à passer dans la salle 1, où une collation vous attend.
Je peux dire un mot sur l'expo?
Je rappelle que l'expo qui est autour de vous ici et dans la salle 1 a été réalisée par le groupe Orsay et Séverine Boudier.
On va moins bien la voir, l'expo.
C'est du sabotage.
Séverine Boudier est juste vous donner une ou deux indications sur cette exposition.
Voilà, c'est une expo qui a été faite par diverses contributrices, pas forcément spécialisées, mais certaines.